Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, Traité Psachim, page 92, Daf Tzadik Bet. Bonne écoute et bon limoud.
Et celui qui ramasse les os d'un proche parent, c'est-à-dire qu'en fait, il fait changer de tombe les ossements d'un proche parent, et lui aussi a d'ordre rabbinique le statut de Onen, malgré tout, toutes ces personnes-là, Tovel ve'Ochel b'Kodashim, ils auront le droit de se purifier et au soir de manger des sacrifices, car même s'ils ont le statut de Onen, ce n'est que d'ordre rabbinique, et donc ce n'est que en journée qu'ils auront ce statut, mais au soir, ils n'auront plus ce statut de Onen, et donc même et au soir, ils ont le droit de manger même des autres sacrifices. Guerre chez Nidgayer, un non-juif qui s'est converti, Beref Pessah, la veille de Pessah. Bet Shammai omrim, Bet Shammai disent, Tovel ve'ochel et bisro, il s'immergera dans le bain rituel et se purifiera et mangera son sacrifice de Pessah, l'Erev, au soir. Ou Bet Hillel omrim, et Bet Hillel disent, Aporesh mina orla, celui qui se défait de son excroissance, c'est-à-dire qu'il se circoncit, que Poresh mina kever, c'est comme quelqu'un qui se sépare d'une tombe, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient d'être sur une tombe et qui s'en va de la tombe, c'est-à-dire qu'il est impur comme pour avoir touché un mort. Et donc, il sera impur durant 7 jours, et il faudra l'asperger d'eau de la vache rouge le 3e et le 7e jour. Et donc, s'il s'est circoncis la veille de Pessah, il ne pourra pas manger du sacrifice de Pessah au soir, car il est impur. Maintenant, la Gemara revient sur ce que nous avons enseigné dans le début de la Mishnah. Que quelqu'un qui est onen aura le droit de manger du sacrifice de Pessah au soir. La Gemara demande Maïtama, quelle est la raison? Alors, l'Agma explique, Kassavar, car ce Tana pense, Aninut de Laila de Rabbanan. Le statut de Onen durant la nuit n'est que d'ordre rabbinique, et n'est pas d'après la Torah. D'après la Torah, le statut de Onen n'est qu'en journée. Et donc, Vegabe Pessah, lo emidu divrem bim kom karet. Et donc, à l'encontre du sacrifice de Pessah, les sages n'ont pas établi leur dire. C'est-à-dire, ils n'ont pas dit qu'on va continuer à lui laisser le statut de Onen, et donc l'empêcher de manger le sacrifice de Pessah, car ça peut l'entraîner à une peine de retranchement. Et donc c'est pour cela que les sages ont annulé leur dire, ils ont dit, dans un cas pareil, il n'aura pas le statut donné. Par contre, Gabé Kodashim revoit de tous les autres sacrifices, et Medou Divrem Bikom Ese, ils ont établi leur dire, même à l'encontre d'un commandement positif, de manger de la bête du sacrifice, étant donné que ce n'est pas un commandement positif qui est passible d'une peine de retranchement, les sages ont laissé leur décret, et même la nuit, il aura le statut de Onen, et donc n'aura pas le droit de manger de sacrifice. Maintenant, la Gemara rapporte un extrait de la Mishnah. Achomé al-Meto, quelqu'un qui entend qu'un proche parent à lui est décédé longtemps après que celui-ci soit décédé, de rouler, etc., c'est-à-dire, est celui qui ramasse les ossements d'un proche parent. Alors, la Gemara demande, mais la quête à Tsamot, abay azat shlishi veshvi, celui qui ramasse les ossements d'un proche parent pour les faire passer de tombe, alors, étant donné qu'il touche les ossements, il touche le mort. Donc, puisqu'il touche le mort, il est impur durant 7 jours, et il a besoin d'être aspergé d'eau de la vache rousse le 3e et le 7e jour de sa purification. Et donc, comment peut-il manger du sacrifice de Pessah au soir? Alors, la Gemara répond, Imash eliktulo atzamot, il faut dire, une personne pour qui on a ramassé les ossements. C'est-à-dire que ce n'est pas le proche parent lui-même qui s'est occupé de ramasser les ossements, il a envoyé des personnes pour qu'on lui ramasse les ossements, et donc, ce proche parent n'est pas impur pour avoir touché un mort, mais il a malgré tout le statut de Onen, et donc en journée il n'aura pas le droit de manger de sacrifice, mais au soir il aura le droit d'en manger, car ce statut de Onen n'est que d'ordre rabbinique. Maintenant la Gemara apporte un extrait de la Mishnah. Ger Shenit Gayer, un non-juif qui s'est converti, alors il y a une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce qu'il aura le droit de se purifier et de manger le soir même du sacrifice de Pessah, ou il devra attendre 7 jours? Amar Rabba Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Bar Bachana, dit au nom de Rabbi Yochanan. Machloket Be'arel Nochi. La discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai à propos d'une personne qui n'est pas circoncis, non juif, qui se circoncis. De Bet Hillel, c'est vrai, Gzera Shema Itana Itama Leshana Abak. Et Bet Hillel pense, pourquoi on n'a pas le droit, il devra attendre 7 jours et il n'aura pas le droit de manger le sacrifice de Pessah au soir, car on craint que l'année d'après, aussi, il devienne impur, par exemple, en touchant un mort. Veyomar et disent, Ishtakad Milotavalti Vachalti. L'année dernière, c'est-à-dire lorsqu'il s'est converti, ne suis-je pas devenu impur et je me suis trempé dans le mikvé, je me suis purifié et j'ai mangé immédiatement du sacrifice de Pessah? Achshav Nami, alors cette année aussi, Edbol Veochal. Alors je vais me purifier, je vais aller au mikvé, je vais m'immerger dans le bain rituel, et au soir j'aurai le droit de manger du sacrifice de Pessah. Veloyada, il ne sait pas qu'il y a une différence entre l'année dernière et cette année. Deshtakad, Nochiava, l'année dernière, il était non-juif, et donc c'est très possible que deux jours avant le Pessah, il ait touché un mort, mais il n'a pas besoin d'attendre sept jours de purification. Pourquoi? Velom et Kabel Touma, étant donné qu'il était non-juif, il ne devenait pas impur. Et donc, dès qu'il s'est trempé dans le mikvé, il s'est purifié après pour devenir juif, à ce moment-là, là, il est devenu juif. Et là, il commence à pouvoir devenir impur. Mais pour l'instant, étant donné qu'à partir du moment où il s'est trempé dans le mikvé, il n'a pas touché de source d'impureté, donc il n'est pas impur. Donc c'est pour cela que, au soir, l'année dernière, il avait le droit de manger du sacrifice de Pessah. Archa, mais cette année, Israël ou Mekabel Touma, il est juif, et donc, il reçoit l'impureté, il peut devenir impur. Et donc, s'il a touché un mort deux jours avant la veille de Pessah, il devra être impur durant 7 jours. Il aura 7 jours de purification. Et lui, on craint qu'il n'en fasse pas la différence entre l'année dernière et cette année-là. Et se disent que de même que l'année dernière, j'ai pas eu besoin d'attendre 7 jours, cette année-là aussi, j'ai pas besoin d'attendre 7 jours. Et il va en venir à offrir le sacrifice de Pessah en état d'impureté. C'est pour cela que Beth Hillel ont décrété que même la première année, il devra attendre 7 jours à partir du moment où il s'est converti et s'est trempé dans le mikvé. Ou Beth Shammai, c'est vrai, et Beth Shammai pense, lo gazrinan, on ne décrète pas une chose pareille. Aval arel Israël, mais une personne qui n'est pas circoncis des Bnei Israël, divrei hakol d'après tout le monde, du moment qu'il se circoncit, tovel veochel et pisrol, il s'immergera dans le bain rituel et aura le droit de manger son sacrifice de Pessah au soir. Delo gazrinan arel Israël, mishum arel nochi. Car on ne craint pas, on ne décrète pas un arel, un incirconcis des Bnei Israël, on ne craint pas qu'une telle personne vienne s'embrouiller avec un incirconcis des non-juifs. C'est-à-dire qu'un incirconcis non-juif, alors c'est possible qu'il vienne s'embrouiller avec ce qui s'est passé l'année dernière. Mais on ne craint pas qu'un incirconcis Israël ne vienne s'embrouiller avec ce qui s'est passé l'année dernière avec l'incirconcis non-juif. Tanya Namiachi, nous avons enseigné comme cela dans une boîte, hein. Amar Rabshon ben Elazar, Rabshon ben Elazar a dit, l'on échlekou Beth Shammai ou Beth Hillel à l'arrêt l'Israël. Beth Shammai et Beth Hillel n'ont pas eu de discussion à propos d'une personne qui n'est pas circoncis des Bnei Israël. Chez Tovel, veochel et pisrol erev, qu'il a le droit de s'immerger dans le bain rituel après sa circoncision et de manger de son sacrifice de Pessah au soir. Même s'il était circoncis la veille de Pessah. Alman échlekou, sur quoi ils ont eu une discussion? À l'arrêt l'Nochi, sur une personne qui n'est pas circoncis, non juive. Chez Beth Shammai, omrim, Tovel, veochel et pisrol erev, Beth Shammai disent que après sa circoncision et après donc sa conversion, il aura le droit de s'immerger dans le bain rituel et de manger du sacrifice de Pessah au soir. Ou Beth Hillel omri, mais Beth Hillel disent, aporesh mina ola, celui qui se défait de son excroissance, keporesh mina kever, c'est comme celui qui se sépare d'une tombe, c'est-à-dire comme s'il venait de toucher un mort. Et la Gemara continue. Amar Rava, Rava dit, Arel, Azaa, Veizmel, c'est 3 cas. Le cas de Arel, d'une personne qui n'est pas circoncis. Et le cas de la hazad, l'aspersion de l'eau de la vache rousse. Beizmel est le cas du couteau. Dans ces 3 cas-là, et nous allons expliquer plus loin quels sont ces 3 cas-là. Et midou divrem bimkom karet. Les sages ont établi leurs paroles, même contre une peine de retranchement. Onen ou metzora ou betapras. Par contre, à propos du cas de onen, de quelqu'un qui a perdu un proche parent, le jour donc, avant que ce proche parent ne soit enterré. Et donc il a le statut de onen. Ou metzora est le cas du lépreux. Ou le cas de Beth Apras, le Beth Apras est un champ dans lequel il y avait un tombeau qui a été labouré et on ne retrouve plus les ossements de ce tombeau. Alors dans ces 3 cas-là, l'on est midou d'ivrem bimkom karet. Les sages n'ont pas établi leurs paroles à l'encontre d'une peine de retranchement. Et immédiatement, l'agma explique. Arel adamran. Le cas d'une personne qui n'est pas circoncis, c'est ce que nous avons vu plus haut. C'est-à-dire que, d'après Beth Hillel, une personne qui n'est pas circoncis, c'est-à-dire un non-juif, et qui se circoncit en faisant la conversion, la veille de Pessah, alors le soir, c'est vrai que d'après la Torah, il a la possibilité de manger du sacrifice de Pessah, mais les sages ont décrété qu'il sera interdit pour lui de manger du sacrifice de Pessah. Et bien que ça va lui entraîner une peine de retranchement, car un Ben Israël qui ne mange pas du sacrifice de Pessah est passible d'une peine de retranchement, les sages ont établi leur dire, même à l'encontre d'une peine de retranchement, et ont dit, celui-là ne mangera pas du sacrifice de Pessah. Haza, le cas de l'aspersion, alors comment cela? D'un marmar, car le maître a dit, Haza, shvut, d'asperger d'eau de la vache rousse, quelqu'un durant Shabbat, c'est interdit d'ordre rabbinique. Ve'en odochet à Shabbat, cela ne repousse pas le Shabbat. Or, si la veille de Pessah tombe un Shabbat, et qu'il y avait une personne dont le septième jour de la purification tombait la veille de Pessah, et donc un Shabbat, d'habitude, une personne est aspergée d'eau de la vache rousse le septième jour de sa purification. Mais comme ici, le septième jour de sa purification est tombé un Shabbat, on n'aura pas le droit de l'asperger d'eau de la vache rousse, car c'est interdit d'ordre rabbinique. Mais si on ne l'asperge pas de l'eau de la vache rousse, alors il ne va pas se purifier. Et s'il ne va pas se purifier, il ne pourra pas manger du sacrifice de Pessah. Et donc, il sera passible d'une peine de retranchement. Malgré tout, les sages ont laissé leur loi qu'il est interdit d'asperger quelqu'un d'eau de la vache rousse durant Shabbat. Et donc, cette personne-là, c'est vrai que d'après la Torah, on a le droit de l'asperger et au soir, il aura le droit de manger le sacrifice de Pessah. Mais d'ordre rabbinique, on n'a pas le droit de l'asperger et il ne mangera pas du sacrifice de Pessah. Et ça va lui entraîner une peine de retranchement. Ismaël, c'est quoi le cas de Ismaël du couteau? Détail, car nous avons enseigné dans une bretta. De même qu'on ne l'amène pas par le domaine public, et nous parlons ici du couteau qui sert à circoncire. Et donc nous parlons d'un cas, d'une personne qui a un enfant, il doit le circoncire, et le huitième jour, le jour donc de la circoncision, est tombé un Shabbat. Alors normalement, on prépare le couteau, et on laisse le couteau à l'endroit où on va circoncire l'enfant. Mais si on a oublié le couteau, alors on n'aura pas le droit de l'amener par le domaine public. Et nous avons enseigné dans une bretta, de même que l'on n'a pas le droit de l'amener par le domaine public, chose qui est interdite Shabbat par la Torah, de même on n'aura pas le droit de l'amener par les toits, par les cours ou par les enclos. Et ça, c'est une chose qui est interdite seulement d'ordre rabbinique. Et donc en fait, si on n'amène pas le couteau pour circoncire cet enfant, même par les enclos ou par les toits, chose qui est interdite d'ordre rabbinique, cet enfant ne sera pas circoncis. Or, il y a une loi qui nous dit que si une personne a dans sa maisonnée quelqu'un qui n'est pas circoncis et qu'il doit le circoncire, il n'aura pas le droit d'offrir le sacrifice de Pessah. Et donc, cette personne n'aura pas le droit d'offrir le sacrifice de Pessah. Et donc, à cause de cette loi des sages qui nous dit que l'on n'a pas le droit d'amener le couteau par les cours, cette personne n'aura pas le droit de manger le sacrifice de Pessah. Le père de cet enfant n'aura pas le droit de manger le sacrifice de Pessah. Et donc, il va être passible d'une peine de retranchement. Malgré tout, les sages n'ont pas annulé leur loi. Ils ont dit, il est quand même interdit de faire passer le couteau par les cours. Et donc ça, ce sont les trois cas que les sages ont laissé leur loi, même si le fait d'accomplir la loi des sages va entraîner une peine de retranchement. Maintenant, nous allons expliquer quels sont les trois cas où les sages ont annulé leur loi pour que l'on n'encourt pas une peine de retranchement. Alors le premier cas c'est Onen, le cas d'une personne qui a le statut de Onen, c'est-à-dire qu'il a perdu un proche parent. Et c'est ce que nous avons vu plus haut. Le Adamwan, ce que nous avons vu plus haut, c'est-à-dire que le cas d'un Onen, le statut de Onen par la Torah n'est que en journée, et la nuit, le statut de Onen n'est que d'ordre rabbinique, et pour que cette personne puisse manger du sacrifice de Pessah, les sages ont dit qu'ils n'auraient pas le statut de Onen, ils ont annulé cette loi. Metzora, maintenant le cas du lépreux, Maï, qu'en est-il? Détania, car nous avons enseigné dans une boîte. Metzora, Shechal Shmini Shelo, Be'erev HaPessah. Un Metzora, un lépreux, dont son huitième jour tombe la veille de Pessah. Or, le lépreux, après ses sept jours de purification, le huitième jour devait amener ses sacrifices au temple. Et donc, le huitième jour, le jour où il devait amener ses sacrifices au temple, ça tombait la veille de Pessah. Vera Kribobayom. Et le jour même, il a eu un écoulement de matière séminale. Et donc, ça le rendait impur. Et donc, normalement, il est impur jusqu'au soir. Sauf s'il s'immerge dans le bain rituel pour se purifier. Et alors, à ce moment-là, après s'être immergé dans le bain rituel pour se purifier, il aura le statut de Tvoul Yom, d'une personne qui s'est purifiée le jour même. Or, il y a une loi qui nous dit que le Tvoul Yom, quelqu'un qui s'est purifié le jour même, n'a pas le droit de rentrer au temple. Or, cette personne a un problème. D'un côté, il est Tvoulium, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de rentrer au temple. D'un autre côté, il est lépreux le huitième jour après sa purification, c'est-à-dire que le jour où il devra amener ses sacrifices au temple. Et s'il n'amène pas ses sacrifices au temple, il n'aura pas le droit au soir de manger du sacrifice de Pessah. Alors, comment va-t-il faire? Alors, Manoui, Tovel, il aura le droit de s'immerger dans le bain rituel pour se purifier, via Ochel, et d'amener ses sacrifices, et au soir de manger du sacrifice de Pessah. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on annulera le commandement positif qui nous dit qu'un Tvoulium n'a pas le droit de rentrer au temple, devra rester à l'extérieur du temple, et on permettra à ce Tvoulium de rentrer à l'intérieur du temple, pour amener ses sacrifices afin qu'au soir il puisse manger le sacrifice de Pessah. Car les sages ont dit, bien que d'habitude un tvoulium, quelqu'un qui s'est purifié le jour même, n'a pas le droit de rentrer au temple, zenirnas, celui-ci a le droit de rentrer. Pourquoi? Il vaut mieux que vienne le commandement positif qui est accompagné d'une peine de retranchement, c'est-à-dire le sacrifice de Pessah, et repousse un commandement positif qui n'est pas accompagné d'une peine de retranchement, c'est-à-dire le commandement positif qu'un tvoulion doit rester à l'extérieur du temple. Ve'amar Rabbi Yochanan dit, Dvar Torah, par la Torah, afilu aseh enbo. Même commandement positif, il n'y a pas. Chez Neymar, comme il est dit, Ve'yamod Yehoshaphat bikal Yehuda v'Yerushalayim. Et Yehoshaphat s'est tenu devant l'assemblée de Yehuda et Yerushalayim. Bebet Hashem, lifnei Hatzer Chadasha. Dans la maison de Dieu, devant la nouvelle cour. Ma'e Hatzer Chadasha, que signifie la nouvelle cour? Shechitchu bo dvarim. Car ils ont dit des nouvelles choses ce jour-là. Ve'amou, ils ont dit, Tvoulium lo ikanes b'machane Leviya. Que le tvoulium, quelqu'un qui s'est purifié le jour même, n'a pas le droit de rentrer dans le camp des Lévim, c'est-à-dire dans l'enceinte du mont du temple. Et de même aussi dans la cour du temple. Et donc en fait, c'est un interdit d'ordre rabbinique pour un tvoulium de rentrer dans la cour du temple. Et donc dans notre cas, si les sages laissent leur interdit, alors cette personne qui a eu un écoulement de matière séminale le huitième jour de sa purification après qu'il ait été lépreux, et donc le jour où il doit amener ses sacrifices, cette personne-là n'aura pas le droit de rentrer dans la cour du temple pour amener ses sacrifices. Et donc, puisqu'il n'aura pas le droit d'amener ses sacrifices, il n'aura pas le droit aussi de manger au soir du sacrifice de Pessah. Et donc, s'il ne mangera pas le sacrifice de Pessah, il encourra une peine de retranchement. Alors, c'est pour ça que les sages ont décidé qu'il vaut mieux, dans un cas pareil, que cette personne rentre dans la cour du temple, et on annule donc l'interdit de rentrer dans la cour du temple pour un tvoulium. Il vaut mieux qu'il rentre dans la cour du temple, amène ses sacrifices de lépreux, et en soit mange du sacrifice de Pessah. Maintenant, la Gemara apporte le dernier cas, Bet Apras, le cas d'un champ dans lequel il y avait un tombeau qui a été labouré. Et donc, on ne retrouve plus ce tombeau, et on ne sait pas où c'est qu'il y a des os, où c'est qu'il n'y a pas des os. Donc, en fait, tout le champ, on craint qu'il y a des os dans ce champ, et donc celui qui passe dans ce champ devient impur, car il a peut-être touché les os d'un corps. Et cette impureté n'est que d'ordre rabbinique. Et donc, Rava nous dit que sur ce point-là aussi, les sages ont été d'accord d'annuler leur loi pour ne pas encourir une peine de retranchement. Et c'est quoi et dans quel cas? Dinan, car nous avons enseigné. Bechavin, Bechamay ou Bethilel. Et Bethilel et Bechamay sont d'accord.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante, Dav Tzadik Bet Amud Bet, chez Botkin le Ose Pessah, ve'en Botkin le Ochle Truma. Que l'on a le droit de vérifier un Bet Apras, c'est-à-dire un champ dans lequel il y avait un tombeau qui a été labouré, on a le droit de le vérifier et d'y passer pour ceux qui font le sacrifice de Pessah, et on n'a pas le droit de le vérifier pour ceux qui mangent de la terouma. C'est-à-dire que si quelqu'un doit amener son sacrifice de Pessah à Yerushalayim et n'a pas d'autre chemin, alors il aura le droit de passer par ce Bet Apras, bien sûr, en vérifiant auparavant qu'il ne marche pas sur des ossements qui sont impurs. Ve'en botkin l'ochlet terouma, mais on n'aura pas le droit de vérifier un Bet Apras s'il veut manger la terouma. S'il veut manger la terouma, non, il devra faire un détour, même s'il doit prendre un ou deux jours de plus. On ne se repose pas sur cette façon de vérifier le Bet Apras. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, quelle était la façon de vérifier le Bet Apras? Menaper Bet Apras veoler. Il soufflait devant lui et marchait. C'est-à-dire qu'il soufflait sur le parterre, et donc automatiquement, les poussières et les petits bouts de terre se repoussaient, mais s'il y avait un ossement, alors il le voyait. Et donc, c'est pour cela, c'était la façon de vérifier. Donc, s'il y avait un os ou un petit os qu'il voyait, il faisait un détour et il ne passait pas au-dessus de lui. Rabbi Yehuda bar Abaye, Mishé de Rabbi Yehuda Amar, Rabbi Yehuda bar Abaye, au nom de Rabbi Yehuda a dit, Bet Apras, Shenidash, Tahor. Un Bet Apras qui a été piétiné est pur. C'est-à-dire, s'il y a plusieurs personnes qui sont déjà passées dans ce Bet Apras, alors on le considère comme étant pur, et on ne dit pas qu'une personne qui passe dedans est impure. Et donc, une personne qui veut faire son sacrifice de Pessah a le droit de passer par un tel Bet Apras pour amener son sacrifice de Pessah, Par contre, une personne qui veut manger de la terouma n'a pas le droit de passer par ce Beta Pras pour aller manger de la terouma. Et donc, nous voyons donc ici que pour pouvoir faire le sacrifice de Pessah, les sages n'ont pas établi leur dire. C'est-à-dire qu'ils ont dit d'habitude, quiconque passe par un Beta Pras est impur. Mais à propos du sacrifice de Pessah, pour qu'il n'en vienne pas à encourir une peine de retranchement, les sages ont dit qu'il aura le droit de le vérifier par les deux façons que nous avons mentionnées plus haut, qu'il ne passe pas au-dessus d'une impureté. Hadran ala haïcha, hadran ala haïcha, hadran ala haïcha. Et nous reviendrons vers toi, le huitième chapitre de Maseret Pesachim, haïcha. Et nous continuons Bezrat Hashem et nous commençons le neuvième chapitre de Maseret Pesachim. Ce chapitre va continuer à nous parler des lois concernant le sacrifice de Pessah. Et au début de ce chapitre, nous allons traiter des lois concernant Pessah Sheni, c'est-à-dire celui qui n'a pas pu faire Pessah Rishon, le premier sacrifice de Pessah, alors il peut se rattraper un mois plus tard, le 14 Iyar, et ça s'appelle Pessah Sheni, le second Pessah, et à ce moment-là, il pourra se rattraper. Et la première Mishnah nous dit, Mishaya Tame, celui qui était impur, allez, au moment de Pessah Rishon, Obedere Rechoka, ou alors il était dans un chemin éloigné, et ne pouvait pas venir à Yerushalayim, et donc n'a pas fait le premier sacrifice de Pessah, Ya'aset Hasheni fera le second, c'est-à-dire Pessah Sheni, un mois plus tard. Chagag, s'il n'a pas fait exprès, Onenas, où il y a eu un cas de force majeure, Velo Aset Harishon, et n'a pas pu faire Pessah Rishon, Ya'aset Hasheni, il fera Pessah Sheni le second. Imken, or si c'est ainsi, Lama Ne'emar Tame Oshaya Bederechoka, pourquoi a-t-il été mentionné dans le verset seulement le cas de celui qui est impur ou celui qui était en chemin éloigné? Pourquoi dans le verset n'est-il pas mentionné le cas de Shogeg, celui qui n'a pas fait exprès, ou Ones, le cas de force majeure? L'Agma nous dit, Sheilup Torim Ikaret Velu Chayavim Beikaret. Car ceux-ci sont passibles d'une peine de retranchement et ceux-là sont exempts de la peine de retranchement. Et nous allons voir dans l'Agmara qui sont ceux qui sont passibles de la peine de retranchement et qui sont ceux qui en sont exempts. Alors l'Agma nous dit, Itmar, il a été dit, Haya bederech ruka, quelqu'un qui était en chemin éloigné. Veshartu vezarku alav, et on a abattu pour lui le sacrifice de Pessah, et on en a jeté le sang sur l'autel. C'est-à-dire qu'il a nommé un envoyé qui abat pour lui le sacrifice de Pessah. Alors qu'en est-il? Rav Nachman amer urza. Rav Nachman a dit, le sacrifice est accepté. Et donc il s'est rendu compte de son obligation, il n'a pas besoin de faire Pessah Sheni. Rav Sheshet amar lo urza. Rav Sheshet a dit, le sacrifice n'est pas accepté et il aura quand même besoin de faire Pessah Sheni. Rav Nachman omer urza, Rav Nachman a dit le sacrifice est accepté. Pourquoi? Michas ou dechas rachmana alav. La Torah qui l'a exempté de faire Pessah Rishon, c'est parce qu'elle a eu de la peine pour lui. Et donc elle lui a dit, c'est pas la peine, on ne t'oblige pas à faire. Viyavid, t'avoir la bracha. Mais si malgré tout il a fait, que la bénédiction se repose sur lui, c'est-à-dire qu'il soit béni, et le sacrifice est accepté. Mais Rav Sheshet Amar, et Rav Sheshet dit, l'autre, le sacrifice n'est pas accepté. Pourquoi? Mitra Dachia Rachmana, la Torah l'a repoussé, il lui a dit, c'est-à-dire que, étant donné que tu es en chemin éloigné, et qu'il ne peut monter à Yerushalayim, alors, étant donné qu'il n'a pas la possibilité d'offrir le sacrifice de Pessah, il n'a pas le droit, et non seulement il n'a pas cette possibilité, la Torah a dit qu'il n'a pas le droit de l'offrir, Ketamé, comme celui qui est impur. Amar Rav Nachman, Mina Mina, Rav Nachman a dit, d'où je sais que la loi est ainsi, c'est-à-dire que s'il a offert son sacrifice, le sacrifice est accepté. Dites Nan, car nous avons enseigné dans la Mishnah. Mishaya Tame Obeder Echuchuka, celui qui était impur ou en chemin éloigné, Velo Asa et Arishon, et n'a pas fait le premier sacrifice de Pessah, Yahasa et Hasheni, il fera le second sacrifice de Pessah. En Michlal, de là, ça, j'apprends. Dei Abad, que s'il voulait, il aurait pu faire. Car nous avons dit celui qui était en chemin et n'a pas fait. Pourquoi avons-nous besoin de dire qu'il n'a pas fait? S'il est en chemin et qu'il n'a pas le droit de faire, alors c'est sûr qu'il n'a pas fait. Pourquoi la Mishnah a besoin de nous dire qu'il n'a pas fait? Ça veut dire que s'il voulait, il aurait pu faire. Mais là, nous parlons d'un cas qu'il n'a pas fait. Donc de là, j'apprends que s'il veut, il a le droit d'offrir le sacrifice de Pessah. Mais Rav Sheshet Amar Lecha, et Rav Sheshet te dit non. Ça, c'est pas une preuve. Pourquoi? Yachi, car c'est ainsi. Seifa dektane shagag onenas. La fin de la Mishnah dans laquelle il est dit, s'il n'a pas fait exprès, ou s'il y a eu un cas de force majeure, Velo Asa et Arishon, et n'a pas pu faire le premier sacrifice de Pessah, Ya'aseh et Hasheni, il fera le second sacrifice de Pessah. Alors d'après le raisonnement de Rav Nachman, il faudra aussi dire, Midektane veloasa, étant donné que nous avons enseigné et il n'a pas fait le sacrifice de, le premier sacrifice de Pessah en Michlade Bayavad. Ça veut dire qu'en fait, s'il avait voulu, il aurait pu faire. Or, comment pouvons-nous dire une chose pareille? Areshagag varenenas. Ici, nous parlons soit d'un cas d'une personne qui a oublié, qui s'en fait exprès, et ça, c'est d'un cas où il y a eu un cas de force majeure. Et donc, dans ces deux cas, même s'il avait voulu, il aurait pas pu faire, parce que soit il a oublié, soit il y a eu un cas de force majeure. Et là, alors que sommes-nous obligés de dire? Sur quoi cela se rapporte là, dans ce qui est écrit dans la seconde partie de la Mishnah, et il n'a pas fait? Mesidktane. Bedayu. Il faut enseigner avec ce cas de Shogeg, celui qui n'a pas fait exprès, et ce cas de Honest, le cas de force majeure. Il faut enseigner un troisième cas, le cas de Mesid, c'est-à-dire celui qui a fait exprès de ne pas offrir le sacrifice de Pessah. Et donc, sur ça, on dit, Velo Asa et Pessah Rishon, et il n'a pas fait le premier sacrifice de Pessah, et il avait la possibilité de le faire, et il ne l'a pas fait. Alors lui aussi devra faire Pessah Sheni. Et donc, puisqu'il en est ainsi, que dans la fin de la Mishnah, nous sommes obligés de rajouter un cas qui n'est pas écrit dans la Mishnah. Alors, Hanami, ici aussi, dans le début de la Mishnah, il faudra rajouter un cas qui n'est pas écrit dans la Mishnah. Onen Ktane Bedayu. Il faudra rajouter dans le début de la Mishnah le cas d'une personne qui a le statut de Onen, c'est-à-dire qu'il a perdu un proche parent avant que le mort ne soit enterré. Donc, cette personne a le statut de Onen. Et donc, lui, s'il n'a pas offert le sacrifice de Pessah, et sur ça nous disons velo asa, et il n'a pas fait alors qu'il avait la possibilité de faire. Alors dans un cas pareil, il devra amener Pessah Sheni. Mais cela ne va pas dire que celui qui est impur ou en chemin éloigné avait la possibilité de faire le sacrifice de Pessah. Amar Ravashi, Ravashi a dit, Madidina Midika. Si c'est ainsi, la Mishnah aussi est précise et est compréhensible, c'est compréhensible pourquoi la Mishnah a utilisé spécialement ce terme d'ektane, car nous avons enseigné Elu pturim beikaret ve'elu chayvim beikaret. Ceux-ci sont passibles d'une peine de retranchement et ceux-là sont exempts d'une peine de retranchement. Ahai, alors sur quoi nous rapportons-nous? Il ima shogeg ve'ne'enas. Si nous voulons dire que nous rapportons ici sur le cas d'une personne qui n'a pas fait exprès ou le cas d'une force majeure, shogeg ve'ne'enas b'nekaretinu. Celui qui n'a pas fait exprès ou celui qui a un cas de force majeure est passible d'une peine de retranchement, ce n'est pas sa faute. Et là, alors n'est-ce pas? Amezid ve'onen. Ici, nous nous rapportons sur le mezid ve'onen, qui n'ont pas été écrits explicitement dans la Mishnah, mais qui ont été sous-entendus. Le mezid, c'est celui qui a fait exprès de ne pas amener son sacrifice de Pessah, et le onen, c'est celui qui a perdu un proche parent. Et donc, ceux-là, ces deux-là, sont passibles d'une peine de retranchement. Rav Nachman amar l'erreur. Rav Nachman te dit, le'olam amezid l'echoudé. Non, la Mishnah, lorsqu'elle dit qu'on est passible d'une peine de retranchement, on se rapporte que sur le cas du mézid de celui qui a fait exprès. Car on ne rajoute que ce cas dans la Mishnah, on ne rajoute pas le cas du onen, de celui qui a perdu un proche parent. Or, si c'est ainsi, alors il y a une question qui se pose. On n'aurait pas dû écrire vechayavin et ils sont passibles au pluriel. On aurait dû écrire vechayav au particulier, au singulier. Pourquoi avons-nous dit et vechayavin au pluriel? Et en effet, le raisonnement donne que l'on aurait dû écrire chayav au singulier. Et la raison pour laquelle nous avons écrit chayavin au pluriel, étant donné que nous avons écrit au début de la Mishnah, pturim, ils sont exempts au pluriel, alors on a enseigné aussi dans la fin de la Mishnah un langage pluriel et ils sont passibles au pluriel. Mais en fait, c'est vrai qu'on aurait dû écrire Chayav au singulier, car ici on ne parle que de celui qui avait exprès. Car d'après Rav Nachman, dans la Mishnah, ni on écrit, ni on ne sous-entend le cas du Onen. Et nous avons fini ici le shiur de Daf, Tzadik Bet. Nous commençons Bezot Hashem, le shiur de Daf, Tzadik Gimel. Nous sommes Daf, Tzadik Bet, Amud Bet, avant-dernière ligne. Nous avons vu dans le shiur précédent qu'il y a une discussion entre Rav Nachman et Rav Sheshet. Qu'en est-il à propos d'une personne qui était en chemin éloigné et pour qui on a offert le sacrifice de Pessah? Est-ce que ce sacrifice est accepté ou pas? D'après Rav Nachman, ce sacrifice est accepté. D'après Rav Sheshet, ce sacrifice n'est pas accepté. Et nous sommes dans Tzadik Bet, Amud Bet, avant-dernière ligne. Amar Rav Sheshet, Rav Sheshet a dit, Mina Minala, d'où je sais cette chose-là que le sacrifice n'est pas accepté pour une personne qui était en chemin éloigné? D'Etania, car nous avons enseigné dans une bretta. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Neemar Tame, ben Neemar Bederechoka. il est dit dans le verset, il est mentionné celui qui était impur, et il est mentionné dans le verset celui qui était en chemin éloigné.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.